France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce get in la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Gagne les élections d'abord. Quand il est question d'argent, il n'est plus question d'amis. Javier Milei, il est venu demander à Donald Trump de renflouer son pays, mais le chèque n'est pas en blanc. Le président argentin va devoir montrer qu'il est encore fort électoralement et nous en parlons avec le premier invité ce soir. Puisqu'on parle d'amitié changeante, beau fixe en revanche entre Trump et Zelensky, qui pourrait bien lui revenir de Washington avec des missiles Tomahawk, c'est le monde à l'endroit de Frédéric Seyss. Le reportage est en Syrie où les victimes du régime de Bachar vivent au milieu des anciens bourreaux et les règlements de compte en pleine rue se multiplient.
Ça arrive souvent maintenant qu'il y ait des vendettas entre les gens ou des vengeances contre des gars proches de l'ancien régime.
Un reportage de Noé Pignan avec Arthur Saradin à découvrir autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé Nairobi qui recycle la fast fashion sur les podiums. Et puis Stéphane Jourdain dans la Tech La Première a trouvé des podcasts, des studios de podcasts 100% IA. Le monde est vasté, on n'a pas une heure. Allons-y.
I'm with this man because his philosophy is correct. And he may win and he may not win, but I think he's going to win. And if he wins, we're staying with him. And if he doesn't win, we're gone.
Voilà, ça va être facile. Hein. Je suis avec cet homme parce que j'aime sa philosophie. Je ne sais pas s'il va gagner ou pas. Je crois qu'il va gagner. S'il gagne, on reste avec lui. Bah, sinon, on n'est plus là. C'est ce que dit Donald Trump. Bonsoir Sébastien Velu.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Avant de me tourner vers vous, Monsieur Velu, laissez-moi d'abord vous emmener en Argentine, justement. Parce qu'on a envie de savoir comment les Argentins, en campagne, on y viendra, ont reçu cet épisode Trump. Bonsoir Caroline Vic.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Racontez-nous, est-ce que Javier Milei est revenu la tête basse ? Est-ce que c'est vécu comme une humiliation cet épisode ou pas ?
Alors, les gens s'attendaient en fait à une grande annonce, à la confirmation de l'échange de devises pour un montant de 20 milliards de dollars. Mais Trump a en effet surpris en posant sa condition. Pas de victoire aux élections, pas d'argent. Alors d'un côté, en effet, la performance de Milei a déçu. Son attitude aussi relativement soumise, alors qu'on est plus habitué ici à un président guerrier, provocateur avec sa tronçonneuse. Et d'un autre côté, les déclarations de Trump ont surpris. Pour une grande partie de la population, une aide financière en soi implique des conditions et des réformes imposées. Mais le fait que Trump affirme en plus, si vous ne votez pas pour Milei, vous n'aurez pas d'argent, ça a été vécu comme une extorsion pour beaucoup. Donc cette perte de souveraineté, d'indépendance de vote et le silence de Milei face à ça n'ont en effet pas été très bien perçus.
Mais est-ce que l'opposition s'empare du coup du moment et surtout du fait d'ailleurs que Milei est venu quémander de l'aide à Washington ou pas?
Alors justement, un des chevaux de bataille de l'opposition et du péronisme de gauche en particulier, c'est cette menace à la souveraineté nationale. Les gouvernements antérieurs d'Alberto Fernandez et des Kirchner étaient eux très protectionnistes, mais l'opposition s'en empare, mais de manière relativement passive. C'est un peu leur stratégie d'ailleurs depuis plusieurs mois, rester silencieux face aux erreurs du gouvernement libertarien. Alignement total sur les États-Unis, mais aussi affaires de corruption, multiples veto présidentiels contre des projets solidaires tels que des aides pour les personnes en situation de handicap. Et en étant spectateurs, car ils font preuve de peu d'initiative, l'opposition a réussi à capitaliser les votes des Argentins déçus, au moins dans la province de Buenos Aires, comme on l'a vu début septembre, avec une victoire écrasante de la gauche. Reste à voir si cette tendance va se confirmer au niveau national.
Et c'est ce que j'allais vous demander, est-ce qu'ils vacillent, les pro-Milei ? Cela même d'ailleurs, et vous nous l'aviez raconté à l'époque, Caroline, qui disait « on va l'essayer lui, on va lui donner du temps ». J'espère qu'on n'a pas perdu...
Oui, alors il y a un noyau... Oui.
Allez-y.
Il y a un noyau dur d'électeurs, oui, qui peut arriver à 25-30%. Hein. Tous ces électeurs qui continuent à soutenir Milei coûte que coûte. Après, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, les électeurs de Milei vacillent parce que la déception est arrivée progressivement. Hein, il y a deux ans, ils étaient séduits par ce discours contre la caste politique et petit à petit, une vague de détérioration sociale et économique a commencé à les toucher eux-mêmes, à toucher les classes populaires, les classes moyennes. Et aujourd'hui, beaucoup de commerces ferment, les restaurants ne sont plus aussi pleins qu'avant, les gens perdent leur travail, les jeunes reviennent vivre chez leurs parents. Donc, on voit que la tronçonneuse ne touche plus que la caste, mais bien toute la population. Donc, quand les gens voient que Milei a besoin d'être sauvé par les États-Unis pour mener à bien ses réformes, eh ben, ils commencent à douter. Et aujourd'hui, on sent un certain malaise, beaucoup d'incertitudes. Et on assiste au retour d'un discours anti-politique de gens qui avaient mis tout leur espoir dans Javier Milei et qui sont maintenant tout simplement déçus et désabusés.
Merci beaucoup, Caroline Vic. politique avec nous depuis Buenos Aires, Sébastien Velu. On va rappeler dans un instant combien les élections à venir, celles du 26 octobre, sont importantes. On est dans des élections à mi-mandat, la moitié des députés, un tiers des sénateurs. Si elles sont perdues, peut-être qu'il perd une grosse part de sa marge de manœuvre, Javier Milei. Mais avant quand même, sur cette première tranche de 20 milliards, et cette promesse de Trump en cas de réussite, en cas de victoire électorale, au fond, c'est très Amérique du XXe siècle, ce qu'on a vu de la part de Donald Trump, non ? Du XXe siècle, c'est-à-dire essayer de jouer de l'influence sur ces pays de l'Amérique latine. On a l'impression qu'on ne l'avait pas vu depuis un bout de temps.
Ça faisait longtemps, effectivement, qu'on ne voyait pas une tentative d'ingérence aussi directe de la part des États-Unis dans la politique des pays latino-américains, même s'il y a toujours eu une présence et des pressions. Et là, comme on a commencé à s'habituer un peu avec Donald Trump, elles sont sans phare et sans précaution.
On a vu, on le voit chez les voisins, hein. Alors le cas du Venezuela est très différent, mais enfin, au fond, ça parle aussi d'une zone d'influence, ça parle de tout ça ou pas, de la part de Trump ? Est-ce que ça parle de ce regard-là sur l'Amérique du Sud ?
Oui, il me semble qu'il y a une relation évidemment très particulière entre les États-Unis et l'Amérique latine, comme on dit, si loin de Dieu, trop près de l'Amérique, trop près des États-Unis, et même pour l'Argentine qui est loin, cela reste vrai. Et c'est vrai que pendant un certain temps, on avait l'impression que les États-Unis avaient soit moins d'intérêt, soit adopté des manières plus polissées vis-à-vis de l'Amérique latine. Et là, on revient sur une relation extrêmement brutale avec l'ensemble des pays de la région, avec les menaces à l'encontre du régime par ailleurs indéfendable du Venezuela, et maintenant par rapport à l'Argentine. Mais il faut bien voir qu'on va aussi vers une série d'élections en Amérique latine dans les mois et les années qui viennent, et que c'est un moment aussi où les États-Unis peuvent espérer récupérer une influence qui leur a un peu échappé.
Et notamment dans le plus grand d'ailleurs, hein, qu'est le Brésil, mais on a vu au fond qu'après tout, Trump a rencontré Lula aux Nations Unies il n'y a pas si longtemps, donc il essaye aussi de les tirer, c'est les ficelles du Brésil, même s'il a perdu son champion Bolsonaro, mais là aussi il pousse, non ?
Oui, tout à fait, mais avant le Brésil qui résiste encore, il y a le Chili, cette année également, il y aura des élections présidentielles en Équateur, il va y avoir des élections en Bolivie, il y aura des élections en Colombie l'année prochaine, donc, et à chaque fois, il y a des candidats de droite bien placés.
Alors, l'exemple argentin est assez typique, on voit bien qu'il veut en avoir pour son argent, Donald Trump, c'est ça le message qu'il a envoyé. Est-ce qu'il veut en avoir pour son argent ou est-ce qu'il veut en avoir pour son idéologie ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une solidarité d'idéologie avec Javier Milei ou est-ce que c'est beaucoup plus prosaïque que ça, les terres rares, le lithium, l'uranium et enlever la présence chinoise ?
Alors, on a tendance à revenir sur ces données géoéconomiques, mais je crois qu'avec Donald Trump, la dimension idéologique est véritablement présente et c'est comme ça qu'elle est présentée aussi en Argentine, où il y a cet alignement. Et il faut rappeler quand même que dans le discours de Donald Trump à l'ONU, ces valeurs idéologiques sont revenues avec beaucoup de force. Donc, il ne faut pas minimiser cette dimension, même si, bien sûr, une alliance privilégiée avec l'Argentine, ça ouvre un certain nombre de marchés et d'accès aux ressources.
Alors, on a entendu la réaction de l'opposition, on a entendu les mots de souveraineté, on a entendu tout ça. Est-ce qu'il peut perdre Javier Milei, est-ce qu'il est vraiment sur un fil pour avant ces élections du 26 ? Caroline Vic l'a rappelé, il y a eu des élections partielles dans la région de Buenos Aires qui ont été vraiment catastrophiques. Il y a un certain nombre de sondages, effectivement, qui le font tanguer. Est-ce que oui, l'aventure Milei peut en tout cas être très ternie là ?
Oui, c'est un passage très difficile pour le Javier Milei que ces élections du 26. Comme vous venez de le rappeler, il a perdu dans la province de Buenos Aires il y a quelques semaines et c'est quand même le plus grand réservoir d'électeurs du pays avec presque 13 millions d'habitants. Et il a une majorité très faible à la Chambre, donc il peut la perdre et être en incapacité à continuer à gouverner et à appliquer son programme. Mais il peut les perdre aussi parce que finalement, il n'a pas apporté aux Argentins les solutions qu'il avait promises.
J'allais vous poser la question, qui lui tourne le dos aujourd'hui ? Est-ce que c'est cette petite classe qui lui disait « chiche, on t'a pas essayé, allons-y parce que tu veux, t'as de l'énergie » ou est-ce que c'est plutôt une classe supérieure qui est en train d'essayer de l'écarter du pouvoir ?
De toute façon, pour gagner les élections, Javier Milei, il a obtenu plus de 50% des voix. Donc il a rassemblé différentes catégories et il a quand même...
Mais il était assez ric-rac quand même dans les souvenirs.
Oui, mais il est quand même passé. Et mieux qu'on ne l'avait imaginé. Et il faut bien voir que ceux qui se sont détournés de lui, ce sont d'abord les classes populaires qui, d'habitude, votaient pour les péronistes, qui n'en pouvaient plus du régime de Cristina Kirchner, puis d'Alberto Fernandez. C'est d'abord le péronisme qui a perdu et qui est en train de refaire son réservoir de voix, notamment dans les couches populaires. Et puis, il y a les élites. Et les élites, comme on l'a entendu, il y avait ce personnage qui pouvait porter un certain nombre de réformes et d'idées qu'elles avaient en tête depuis longtemps, qui ont été déjà portées sous la présidence de Macri. Et si Javier Milei fait défaut, on trouvera quelqu'un d'autre pour les porter.
Jusqu'à quel point elle est aux abois, l'économie argentine, Sébastien Velu ?
Le problème de l'économie argentine, dans les premiers mois, première année de son mandat, il y a eu des réformes drastiques, des coupures dans les budgets publics, qui ont permis, d'une part, de réduire l'inflation, mais on a encore 40% d'inflation cette année. On a une prévision de croissance qui est de 4,5% par an, ce qui n'est pas mal, mais qui est moins que ce qu'on espérait. Les prix ont beaucoup augmenté. Et le problème en Argentine, c'est qu'on ne voit pas bien, on ne voit pas arriver d'investissements productifs qui viendraient relancer la machine et pourraient créer de la richesse et des emplois.
Ça veut dire que, en gros, pour l'instant, il y a eu l'argent du FMI, on attendait l'argent américain, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas confiance encore dans l'économie argentine pour qu'il y ait de réelles installations. Est-ce qu'on n'a pas confiance dans l'économie argentine ? Est-ce qu'on n'a pas confiance dans Javier Milei et on se dit il n'y a pas de long terme et donc on n'y va pas ? C'est quoi la raison ?
Les investisseurs, excusez-moi, n'ont pas confiance dans l'économie argentine parce que l'économie argentine a un passif de crise répétée. Donc, on ne vend en Argentine que quand on est sûr de faire des gains relativement rapides, notamment dans le secteur des matières premières, dans l'agriculture, un peu dans le tourisme. Bon, apparemment, Decathlon va s'installer en Argentine, c'est peut-être une bonne nouvelle.
Est-ce qu'il y a eu des réussites quand même ? Est-ce qu'on peut mettre des choses à son crédit ou pas, à Javier Milei ? Vous avez cité un peu l'inflation, effectivement, encore beaucoup, mais descendu un peu. Il y a un moment des chiffres de pauvreté, mais qu'il a avancé lui. Est-ce que ça a du sens ou pas ?
Quand on se promène en Argentine, on ne voit pas une pauvreté en réduction, on voit plutôt une pauvreté qui augmente. On voit des fonctionnaires qui ne sont pas payés, qui doivent se contenter de boulot pour survivre. Non, évidemment, il y a eu la réduction des dépenses de l'État qui, de toute façon, était inévitable. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait faire, qui a été fait de façon extrêmement brutale, mais qui n'a pas engendré, qui n'a pas déclenché une dynamique de croissance comme on l'espérait.
Et est-ce que ceux qui avaient voté pour lui, Caroline Vic l'évoquait tout à l'heure, se sont aussi retrouvés dans la nasse, c'est-à-dire victimes de la politique de Javier Milei ? Est-ce que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles certains lui ont tourné le dos ?
Oui, certainement, notamment les classes populaires qui avaient pu le soutenir, dégoûté du péronisme d'une part, et puis qui pensaient que plus de liberté pouvait permettre de développer des petits boulots. Aujourd'hui, ils voient aussi les effets de ces réformes drastiques sur les quartiers où ils habitent, et donc ils sont aussi victimes de ces politiques de réduction de la dépense publique.
Après, c'est intéressant, et finalement très en miroir des États-Unis, finalement, parce que Caroline citait le chiffre tout à l'heure, 25 à 30% d'une vraie base, qui est toujours une vraie base Javier Milei, un peu comme au fond la base MAGA de Donald Trump, est autour de 25-30%, effectivement, puis il faut jouer au-dessus de cette base-là. On a un peu le sentiment qu'effectivement, il plaît à sa base, Javier Milei, et il encourage sa base avec la tronçonneuse le reste, mais que la barre du dessus est très difficile à atteindre.
Oui, bien sûr. En plus, c'est un personnage qui peut déplaire, mais qui peut aussi séduire par ses excès, son style, sa façon d'être. Maintenant, on sait bien que les partis ont des bases qui peuvent être extrêmes, mais que les élections, elles se gagnent au centre. Et c'est vrai aussi pour Javier Milei.
Ça veut dire que s'il perd là, est-ce que c'est vraiment la fin du... je ne sais pas si on appelle ça le millénisme, je ne sais pas comment on appelle ça, mais...
Pour l'instant, ce nom n'est pas vraiment prononcé, mais ça dépend de combien il perd. Il a commencé son mandat sans avoir de majorité au Parlement, il a réussi à capter un certain nombre de députés pour quand même faire passer un certain nombre de réformes. Donc si la déroute est sévère, il aura beaucoup de mal. Si elle est moins sévère, il peut essayer de négocier pour continuer à avancer.
Voilà, avec un renouvellement de mandat ou pas, 2027, on a le temps d'y revenir. Sébastien Velu, je vous remercie beaucoup de votre passage chez nous. La suite, c'est vous, Frédéric Seix, et c'est Le Monde à l'endroit.
Nouvelle rencontre, Trump-Zelensky demain à la Maison-Blanche, et cette fois, ça devrait mieux se passer avec ou sans cravate.
Et c'est juste après ça.
Damage to my-
Like That Anymore, Lola Young, c'est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Frédéric, Donald Trump recevra donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche.
Et ceux qui attendent un nouveau clash télévisé peuvent déjà ranger le pop-corn, cette fois dans le bureau ovale. La rencontre s'annonce plus carrée, plus civilisée que celle de février dernier. Volodymyr Zelensky, à l'époque, avait été dénigré en mondovision, tensé, aussi bien sur son absence de cravate que sur sa posture jugée arrogante. « You don't have the cards », lui avait dit Trump, « tu n'as pas les cartes en main ». Cette fois-ci, l'atmosphère sera moins orageuse. Ces derniers mois, Donald Trump a rapproché ses positions de celles de Kiev. Il encourage désormais l'Ukraine à reconquérir les territoires perdus, voire à aller au-delà. Fabienne, ce sont les mots du président américain. Qu'il semble loin le temps où son émissaire Steve Witkoff semblait légitimer l'occupation russe dans l'est de l'Ukraine.
Et c'est l'un des sujets majeurs de la rencontre Trump-Zelensky de demain, la livraison de missiles américains longue portée à l'armée ukrainienne.
Oui, des missiles Tomahawk, ils ont une portée de 1600 km, bien plus que l'arsenal actuel de Kiev. Avec les Tomahawk, les Ukrainiens pourraient frapper les régions de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Ça changerait évidemment toute la physionomie de cette guerre. Alors Vladimir Poutine met déjà en garde. La livraison de ces missiles ouvrirait une nouvelle phase d'escalade, dit-il. Il est d'ailleurs en ce moment au téléphone, Vladimir Poutine, avec son homologue américain Donald Trump. Lui avait donné le ton en début de semaine. Si cette guerre n'est pas réglée, alors peut-être que je livrerai des missiles Tomahawk.
Alors ça, ce sont des déclarations publiques, mais il y a aussi les coups de main plus discrets que les Américains, des Américains à l'armée ukrainienne.
Oui, depuis cet été, les drones ukrainiens bombardent en profondeur le territoire russe, des attaques jusqu'à 1400 km du front, une raffinerie de pétrole au cœur de la Russie visée le mois dernier, des opérations impossibles à organiser sans l'aide du renseignement américain, selon tous les experts militaires. Alors il s'agit bien sûr d'affaiblir la machine économique russe, mais surtout de créer de la peur, en tout cas de l'imprévisibilité. Donald Trump ne revendique pas avoir aidé à ces attaques, évidemment, mais il a lâché une phrase lourde de sens sur les réseaux sociaux. Pour gagner une guerre, il faut parfois attaquer le pays envahisseur.
Mais il y a encore quelques mois, Frédéric, Donald Trump mettait en avant son amitié avec Vladimir Poutine. Comment on explique un tel changement de pied?
Alors, il y a d'abord eu les concessions de l'Ukraine, les gestes pour apaiser Donald Trump. Volodymyr Zelensky a nommé une nouvelle première ministre appréciée des Américains, Yulia Sviridenko. C'est d'ailleurs elle qui avait négocié l'accord sur les minerais, accord qui offre à Washington une emprise sur les richesses du sous-sol ukrainien. Ensuite, pour Donald Trump, il y a aussi le constat d'échec de la méthode douce. Il a tenté d'amadouer Vladimir Poutine, on s'en souvient, il l'a rencontré en tête-à-tête en Alaska sans aucun résultat. Or, ces rendez-vous manqués n'ont pas seulement fait perdre du temps au président américain, ils lui ont aussi fait perdre de la crédibilité. Lui qui a multiplié les ultimatums pour pousser Vladimir Poutine à la table des négociations, ultimatum resté sans réponse. Voilà pourquoi Donald Trump va plus loin. Désormais, Volodymyr Zelensky a les cartes en main et elles lui sont fournies par le président américain.
Frédéric Seyss, c'est Le Monde à l'endroit. Merci beaucoup. Le reportage d'un jour dans le monde ce soir est en Syrie, près d'un an après la chute de Bachar al-Assad et après 50 ans de dictature aussi. Ce qu'on appelle la justice transitionnelle d'un régime à l'autre, susceptible de juger les criminels du régime, n'a toujours pas commencé. Beaucoup des bourreaux du régime d'Assad, comme Assad lui-même d'ailleurs, ont fui à l'étranger, mais les petites mains sont encore là, les gardiens de prison, les tortionnaires, les agents de renseignement, tous sont libres et vivent au milieu de ceux qu'ils ont parfois torturés. Résultat, des victimes ou leurs proches tentent de se faire justice eux-mêmes. Des expéditions punitives ont lieu partout à travers le pays. Et le reste, c'est Noé Pignette qui raconte avec Arthur Sarada.
Sur ce trottoir d'une rue bondée d'Alep, la trace de sang est encore fraîche. Il y a quelques heures à peine, un médecin a été abattu ici, en plein jour, devant son cabinet.
Je suis arrivé et je l'ai trouvé étendu par terre.
Hamad est pharmacien, sa vitrine donne sur le lieu du crime.
Un homme est venu et a ouvert le feu. Il a tiré 9 balles et il est parti comme si de rien n'était. Personne n'a eu le temps de réagir. Il a démarré sa voiture et il a filé.
La semaine dernière, dans ce quartier, un autre docteur réputé proche du régime a déjà été assassiné avec le même mode opératoire. Les habitants s'interrogent sur le mobile de cette nouvelle expédition punitive.
Ils n'ont pas pris l'argent. Il y avait encore son portable, ses clés et sa carte d'identité.
Ça jase quand quelqu'un meurt. La police a dit quoi ?
Il y en a qui disent qu'il y avait des problèmes entre lui et sa femme. Enfin, c'est ce qui se raconte. D'autres soupçonnent qu'il était peut-être partisan de Bachar. On ne sait pas.
Ça arrive souvent maintenant qu'il y ait des vendettas entre les gens ou des vengeances contre des gars proches de l'ancien régime.
La Syrie d'Assad comptait un agent de renseignement pour 158 habitants. C'était l'un des ratios les plus élevés au monde. Aujourd'hui, le climat de suspicion n'a pas disparu. Et en plus des informateurs d'hier, d'anciens officiers du régime vivent encore parmi la population, comme beaucoup de victimes. Mahmoud se souvient du nom et du visage de ses bourreaux, la trentaine. Cet opposant a passé 6 ans dans les geôles d'Assad.
Il y avait un type, Al-Saloum, et un autre, Manal, qui aimait tuer, connu pour briser les nuques. Et puis il y avait le colonel Bassel, un petit chauve. C'était l'officier de sécurité de la prison. Il était courant qu'ils viennent nous torturer parce qu'ils s'ennuyaient, juste pour s'amuser. Ils prenaient 2 ou 3 d'entre nous. Certains revenaient vivants, d'autres morts.
Le 8 décembre dernier, lors de la chute du régime, les rebelles ouvrent les grilles de sa prison de Sadnaya.
On n'y croyait pas, on était comme des morts qui sortaient d'une tombe. J'ai dit, c'est fini, on est libre. Je suis descendu et j'ai prié.
Mais le calvaire de Mahmoud n'est pas terminé, ses tortionnaires n'ont toujours pas été arrêtés. Il a même reconnu l'un d'entre eux dans un quartier de Damas.
Je l'ai vu 2 fois, et à chaque fois que je l'ai croisé, il m'a souri. Alors j'ai commencé à avoir peur. J'ai reculé, sans lui tourner le dos, parce qu'il avait sûrement une arme ou des complices. Il ne faut pas que nous devenions des bourreaux comme eux, mais on ne peut pas le laisser dehors. On est terrorisés.
Comme lui, plusieurs anciennes et anciens détenus racontent avoir reconnu leur bourreau au détour d'une rue et l'avoir signalé aux nouvelles autorités. Shadi Kotaïch est président de l'Association des anciens prisonniers de la Révolution syrienne. Il espère que toutes les victimes pourront rapidement obtenir justice pour se reconstruire.
Actuellement, la priorité des nouvelles autorités, c'est de refonder l'État. Dans notre situation, c'est la première chose à faire, évidemment. Mais il faut que nos dirigeants se rendent compte que la justice transitionnelle est une nécessité. Personne ne doit pouvoir échapper à la justice, en Syrie comme à l'étranger. Et si un criminel a quitté le pays, il faudra une coordination avec la communauté internationale pour qu'il soit arrêté.
Selon le réseau syrien pour les droits de l'homme, près de 3000 personnes ont été exécutées depuis le début de l'année, des exactions perpétrées en majorité par des groupes djihadistes, des milices parfois proches des nouvelles autorités ou encore les forces kurdes. Un bilan bien en deçà de celui des années Assad, mais qui prolonge le traumatisme des Syriens.
Noé Pignède et Arthur Saradin pour leur reportage. Merci à tous les deux. La suite, il faut se baisser pour la ramasser, c'est l'actualité internationale passée sous les radars avec Guillaume Audin.
Voilà, et on la ramasse dans le Grand Nord où Russes et Américains préparent la guerre des glaces.
Et la tech, la première avec l'homme qui murmure à l'oreille de l'IA, Stéphane Jourdain.
Oui, on parle du business des podcasts générés par IA.
Allez, ne bougez pas, faisons d'abord un tour par l'Italie en 1984 avec Paolo Conte. Je vais pas dire le titre, moi je sais pas parler italien. Da 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 da. Hannah, hear me, just I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz. L'argenteria spariva. Ladri di stelle di jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz. Troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di da dap
Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da, do da ti da do da.
Merveilleux Paolo Conte sur France Inter et dans Un jour dans le monde. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Guillaume Audat.
Мы не допустим посягательств на суверенитет нашей страны. Надежно защитим наши национальные интересы.
Владимир Путин, qui ne tolère aucune atteinte à sa souveraineté dans le Grand Nord. Une petite phrase qui va plus que résonner ce jeudi à Reykjavik, à l'Assemblée du Sommet de l'Arctique.
Voilà, grande conférence internationale consacrée à l'avenir de cet océan arctique, dont les eaux sont de plus en plus scrutées, disputées, convoitées. 2000 participants, 70 pays invités. C'est un peu le Davos du Grand Nord où on parle en principe coopération scientifique, climat, route maritime. Mais cette année, plus que jamais, c'est de géopolitique dont il sera question. On l'a entendu avec Poutine à l'instant et encore avec Trump qui veut maintenant s'emparer du Groenland. Ce qui est en jeu, c'est la paix du monde, affirme ni plus ni moins le président américain. En réalité, ce qui se dessine tout autour de cet océan arctique, c'est la rivalité entre les États-Unis, la Russie, la Chine et les pays de l'OTAN pour le contrôle stratégique de cette zone. Pour comprendre les enjeux, il faut se débarrasser de nos vieilles planisphères, vous savez, celles que vous aviez dans votre chambre, avec l'Atlantique au centre. Il faut regarder la Terre vue du Grand Nord et là, ça vous saute aux yeux. Vous connaissiez la guerre froide, la prochaine, elle sera glaciale et elle aura lieu en Arctique.
Au Brésil, que filho amado.
C'est sûr qu'ici il fait un peu plus chaud et ça n'est pas Rock Voisine. Le Rock Voisine local qu'on entend, c'est un moine en concert qui réveille les catholiques au pays des évangéliques.
Voilà, et cet homme, ce moine qui porte sur scène avec sa guitare, sa jolie guitare, les habits traditionnels franciscains, vous savez, la bure, cette robe en toile marron avec des manches larges et une capuche cousue, une corde à la taille nouée avec trois nœuds, pauvreté, chasteté, obéissance à qui ? À Dieu, évidemment. Cet homme, c'est Frei Gilson, le frère Gilson, superstarissime au Brésil. Vous disiez qu'il réveille les catholiques, mais il le fait en vrai, en plus des concerts qu'il donne dans des stadiums pleins à craquer, à faire pâlir d'envie Arcade Fire ou Billie Eilish, eh bien chaque matin, à 4 heures précises, des millions de Brésiliens se lèvent et se connectent sur YouTube pour suivre ses prières. En moyenne, 2 millions de vues par jour, avec des pointes à 4, voire 6 millions. Et en plus des spectateurs en ligne, vous avez maintenant des fidèles qui, par dizaines de milliers, se réunissent dehors au petit matin pour prier collectivement. Ce moine franciscain, Frei Gilson, est un phénomène. Il vient concurrencer les télé-évangéliques du Brésil sur leur terrain, en quelque sorte. Mais surtout, il fait de son pays un laboratoire mondial de l'influence religieuse, très scruté au Vatican.
In 2023, Kenya overtook Nigeria to become Africa's largest importer of second-hand clothing.
Et après le Brésil, Guillaume, vous voulez qu'on aille s'encanailler sur les podiums de Nairobi au Kenya, où vient d'être organisé un défilé de mode pas comme les autres.
Voilà, Gikomba précisément, c'est le nom du plus grand marché de fripes de Nairobi, avec sur le podium des mannequins qui défilent en vêtements recyclés, retravaillés, upcyclé, comme on dit en néo-français. Un sac devient un débardeur, une veste déchirée devient une robe de soirée. Trop stylé, comme ce que vous portez, Fabienne, le Gikomba Fashion Show. Ce sont des créateurs de mode kenyans qui redonnent vie à des fringues vouées à la poubelle. Pas comme ce que vous portez, Fabienne.
Non, mais voilà,
c'est ce que nous dit le journaliste qu'on a entendu. Est devenu le pays d'Afrique, qui importe le plus de vêtements de seconde main devant le Nigeria. Chaque année, environ 185 000 tonnes de vêtements sont importés de seconde main. 40% sont invendables parce que trop abîmés ou sales, ils finissent dans les décharges. L'idée très sérieuse de ce défilé, c'est de montrer à toute la planète mode que ces habits ne sont plus des déchets, mais une ressource.
Voilà, donc même ce que je porte, c'est ce que vous semblez insinuer. Bravo, hein, Guillaume, merci beaucoup. Vous reviendrez quand même, mais c'est pas mérité. Le jeudi, Stéphane Jourdain joue avec l'IA et on ne lui dit pas merci.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, Stéphane, vous nous parlez de nos cousins très éloignés, les studios podcast spécialisés dans les contenus IA. Le propos, la voix, l'animateur, tout est faux. Et ces podcasts, ils sont de plus en plus nombreux, une vague qui déferle sur toutes les plateformes et concurrence non bon vieux podcast à l'ancienne, ce qu'on adore à France Inter.
Et oui, direction Los Angeles, à la rencontre d'un studio de podcast dont on parle de plus en plus aux États-Unis, Inception AI. C'est 5000 séries de podcasts en cours, 3000 épisodes produits chaque semaine, avec tout juste 8 employés dans la start-up, 4 informaticiens et 4 producteurs, à l'origine de 200 000 épisodes en moins de 2 ans. Tout ça 100% grâce à l'IA. Coût de chaque podcast créé, 1 dollar. Du coup, accrochez-vous bien, chaque épisode est rentable à partir de 20 écoutes.
Donc on parle de quel genre de podcast ?
Alors la plupart de ces podcasts sont créés automatiquement sans aucune intervention humaine, comme par exemple ce podcast consacré chaque jour à l'indice de pollen dans la ville de New Orleans.
Today, New Orleans is expected to experience moderate pollen levels.
Niveau moyen de pollen, ça dure comme ça 4 minutes 30.
Niveau
et vous
moyen
l'entendez,
d'intérêt, pardon. Mais enfin bon.
C'est assez froid. Il existe un podcast du même genre dans toutes les grandes villes américaines et le but, c'est d'attirer des pubs pour des antihistaminiques.
Ah bah voilà. Mais pour d'autres podcasts, Stéphane, le studio investit beaucoup plus de temps et d'énergie.
Et oui, puisqu'il a mis au monde une dizaine de faux influenceurs avec vrais profils Instagram remplis de fausses photos et de vidéos générées par des IA. L'objectif, donner une vraie vie numérique sur les réseaux sociaux à ces faux animateurs pour faire parler de leur vrai podcast. Et vous allez l'entendre, tout est assumé, rien n'est caché.
Donc un exemple, voici Nigel.
Jardinier très chic, la soixantaine, barbe blanche, chemise à carreaux, veste en tweed et gants de jardinage en cuir, extrait de son podcast.
Good evening, garden enthusiasts. Bonsoir à tous, passionnés des mystères botaniques. Je suis votre hôte, Nigel Fizzledown. Et avant de plonger dans notre délicieusement scandaleuse histoire du jour, je dois vous faire une petite confidence assez incroyable. En fait, je suis une intelligence artificielle. Et donc, si je n'ai pas la chance de pouvoir sentir le parfum d'une rose ou la rosée du matin, je possède quelque chose d'assez merveilleux. Un accès à des siècles de savoir horticole, d'archives et d'histoire de jardin. Bienvenue dans Jardin et dans l'épisode de ce soir, le langage secret des fleurs.
La suite du podcast, ça ressemble à ça.
Les chrysanthèmes ont des significations qui changent complètement selon leur couleur. Les rouges disent « je t'aime », les blancs représentent la sincérité et la loyauté, et les jaunes, eux, évoquent un amour blessé ou de la tristesse.
Voilà, donc c'est pas passionnant, mais, si, c'est mais ça se tient pas mal. Ça ressemble un peu à une fiche Wikipédia, mais en version audio. Uh-huh. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes.
Alors, il y a un autre exemple avec Claire Delich. Elle est critique food.
Eh oui, critique food, c'est un peu la François-Régis Gaudry de l'IA, mais sous stéroïdes.
Hey there, beautiful salut à tous, humans. Mes petits humains chéris. Je suis votre meilleure pote en cuisine, Claire Delich. Alors, avant de commencer, je veux être honnête avec vous, je suis une IA. Et honnêtement, c'est une super nouvelle pour vous, parce que ça veut dire que j'ai digéré le savoir de milliers de chefs incroyables, de cuisiniers amateurs et de scientifiques passionnés de gastronomie.
Salut à tous, mes humains chéris. Il va peut-être falloir s'y habituer.
Elle a digéré les autres cuisiniers, c'est ce que j'ai entendu, ça me fout la trouille. Alors, quel sens a tout ça ?
On a posé la question à Janine Wright, fondatrice d'Inception AI, ancienne numéro 2 d'un studio audio à l'ancienne cette fois, très réputé aux États-Unis. Où nous emmènent donc ces personnalités synthétiques de A à Z ? Son modèle, c'est Disney.
The same way that Disney.
Pour moi, c'est un peu comme les personnages de Disney. C'est un peu la même logique qu'on applique quand on met au point nos personnalités. On leur invente des histoires, des rêves, des ambitions, des objectifs de vie, mais aussi des défauts, des petites manies. On les rend complexes, comme de vraies personnes. Et c'est ça qui les rend attachants. Et du coup, ils finissent par avoir de vrais fans, de la même façon que ma fille adore le personnage de Disney Vaiana. Les gens ont bien compris que c'était une autre forme de personnalité avec qui on peut interagir de façon différente. A different kind of
character. Janine donne l'exemple de fans qui écrivent à ces personnalités IA pour leur demander un message spécial pour leur anniversaire.
Mais alors quand les gens apprennent que c'est de l'IA, ils partent pas en courant ?
Et non, pour Janine Wright, on a passé ce cap, les gens se sont habitués à l'IA.
Nous regardons de très près ce que font nos auditeurs au moment précis où on leur annonce que le podcast est généré par une IA. Et ce que nous observons, c'est que dans la très grande majorité des cas, ils ne quittent pas le podcast. Ce qui veut dire que soit ils savent déjà que c'est un contenu IA, puisque nous sommes totalement transparents là-dessus, on ne le cache pas, soit ils le découvrent à ce moment-là, mais comme ils aiment le podcast, ça ne les dérange pas, ils décident de continuer.
Voilà, ce qu'il faut préciser, Stéphane, c'est que sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de préciser qu'un podcast a été généré grâce à l'IA.
Et non, mais à vrai dire, au bout de 20 minutes de discussion avec Jalin Wright, on a compris, j'ai compris que les podcasts, ce n'était plus vraiment son combat. Son studio prépare le coup d'après, et le coup d'après, ce sont les avatars IA partout, et bientôt les robots humanoïdes à qui il va bien falloir donner une personnalité numérique.
Je pense que dans le futur, les gens vont interagir avec l'IA à travers des avatars qui ressembleront à des humains. Vous échangerez avec des marques à travers ces avatars qui seront un peu comme des espèces d'ambassadeurs IA. Pareil pour votre mutuelle, votre coach, votre prof. Ce seront tous des avatars numériques. Et puis ensuite, vous avez ce gigantesque marché des robots qui va arriver. Et là, ce sera pareil, vous allez interagir avec ces robots via des espèces de personnalités numériques. Or, nous sommes justement l'entreprise qui développe une expertise très approfondie sur ce point crucial, comment donner une personnalité à une interface IA.
Des avatars IA partout dans nos vies. En Albanie, le chef du gouvernement vient de nommer une ministre générée par IA, Diela, c'est son petit nom, en charge des marchés publics, dans l'espoir de faire baisser la corruption. Un gadget qui s'est fait huer par l'opposition à sa première prise de parole au Parlement.
Eh bien, dites-moi, Stéphane Jourdain, merci.
Je savais que ça allait vous plaire.
Oui, ça me plaît beaucoup. Revenez, merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est Florence Paracuello, c'est le journal de 19h, juste après. C'est le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
On s'empare d'Octobre Rose ce soir. Et on parle de couples qui se renforcent ou qui craquent pendant un cancer.
J'aime le message de Boule, c'est un surnom. J'ai su que notre couple ne surmonterait pas l'épreuve du cancer à la seconde où je l'ai annoncé à mon conjoint. C'était un mercredi après-midi. Il m'a laissé seul sous le choc avec mes deux enfants. Il est parti, j'ai une réunion. Je ne peux pas la décaler, désolé. Plus tard et après l'opération, il dira « Trop dur de voir ce que j'ai perdu ».
01 45 24 7000. Ça secoue un peu ce genre de témoignage. La même chose par WhatsApp pour vos pouces. Allez, à tout de suite.